Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le témoin de ce vendredi, Siméon II, roi des Bulgares.
Tsar Siméon, surgit de plus de 100 000 poitrines, ce cri accompagne le retour du monarque tout au long de son entrée à Sofia. Le dernier roi de Bulgarie se fait acclamer depuis le balcon de la mairie. Bouleversé jusqu'aux larmes, il lève les bras et envoie des baisers à la foule.
Siméon II aura provoqué la liesse au moins deux fois chez les Bulgares, à sa naissance en 1937, à son retour en 1996. Entre les deux, un bref règne de roi-enfant, de 43 à 46, date de l'éviction par les communistes. Les philatélistes se souviennent peut-être de son portrait sur les timbres-postes, mais en réalité, la période était tragique. Suivra un long exil d'un demi-siècle. C'était difficile d'être un roi enfant, ce n'est pas facile non plus d'être un roi en exil. Au moins, Siméon II aurait-il eu une vie plus variée et plus mouvementée que s'il était resté à Sofia. À son retour, il s'interrogeait sur l'hospitalité des Bulgares. Roi par la vertu de la succession dynastique, il devient en 2001 leur premier ministre par la grâce des élections. C'est lui qui préside à l'entrée de la Bulgarie dans l'OTAN et prépare celle dans l'Union européenne. Il aurait pu titrer ses souvenirs « Mémoire d'un roi quand j'étais premier ministre ».
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour à vous. Vous avez choisi un autre titre pour vos mémoires chez Flammarion que « Quand j'étais premier ministre ». Qu'est-ce que c'est le titre ?
Un destin insolite.
Un destin singulier, c'est vraiment le singulier, moins qu'on puisse dire. Alors, nos auditeurs républicains se demandent comment Lebrun va-t-il appeler le roi des Bulgares. Bien, c'est très simple. Je vais faire comme Otto de Habsbourg, l'archiduc. Quand on évoquera la période où vous avez été Premier ministre, je dirai Monsieur le Premier ministre. Et puis, quand on évoquera la période où vous y étiez roi, en titre ou en exil, on va dire Majesté. Et Otto ajoutait... On pourrait aussi vous appeler Monsieur de Saxe-Cobourg. Alors, qu'est-ce que c'est les Saxe-Cobourg ? Vous direz que c'est une famille qui remonte à Charlemagne, mais elle a un rôle dans l'histoire de l'Europe.
Effectivement. C'est un tout petit duché qui a donné plusieurs trônes en Grande-Bretagne, en Belgique. Aussi, le roi de Suède actuel, la mère est une Saxe-Cobourg. Au Luxembourg, la mère du Grand-Duc actuel était une Saxe-Cobourg, puisque c'était la sœur du roi Baudouin et quelques autres pays qui étaient aussi en parenté.
Alors je comprends pourquoi les Saxe-Cobourg ont été rois du troisième royaume de Bulgarie, peu après l'indépendance recouvrée. C'est parce que les puissances européennes, on est à la fin du 19e siècle, se sont dit bah, « voilà une famille bien apparentée qui est liée à nous autres et nous aurons quelqu'un dans la place ». C'est comme ça que vous êtes devenu roi, votre grand-père Ferdinand d'abord en Bulgarie.
Oui, après quelques années que le prince Alexandre de Battenberg avait été prince, élu naturellement, et puis c'est l'empereur Alexandre III, dont il était cousin, qui ne s'entendait pas du tout et a fait de tout pour l'évincer. Il y a eu une période que notre Parlement a cherché pour trouver un souverain, et ils sont arrêtés sur mon grand-père.
Mais attendez, votre grand-père, c'est un produit du Parlement bulgare, ce n'est pas un produit des puissances européennes ?
Effectivement, l'influence des puissances européennes était là, mais c'est le Parlement bulgare qui avait fait le tour de l'Europe pour voir qui serait le nouveau ou futur prince de Bulgarie.
1887, c'est l'arrivée de votre grand-père que vous décrivez dans vos mémoires comme le monarque avec un grand M. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, même quand il ne parlait pas, était entendu. Mais votre grand-père, il était passablement expansionniste.
Peut-être il voyait un peu plus grand à cause des circonstances, à cause de certaines zones limitrophes à la Bulgarie telle qu'elle était en 87, où il y avait des ressortissants bulgares. Et puis les guerres balkaniques et la guerre mondiale ont fait que... Mais enfin, l'expansionnisme est relatif, je crois.
Il est obligé, allié avec les Allemands, après la défaite pour lui en 1918, de quitter le pays. Il va d'ailleurs aller vivre en Allemagne. Et alors votre père, Boris III, lui se retrouve à la tête d'un petit pays. Et pendant plusieurs années, il va essayer de le reconstruire assez modestement, ne pointant pas le nez dehors pendant des années.
Effectivement, Il s'est donné cette période pour tâcher de redresser autant que possible les effets de la guerre.
Et en 1926, il commence à sortir des frontières. L'année de votre naissance, on est nettement plus tard, 1937, voilà qu'avec votre mère. Alors votre mère est la fille du roi d'Italie.
Oui, Jeanne de Savoie.
Vous êtes le petit-fils du roi d'Italie en même temps que l'arrière-petit-neveu de la reine Victoria.
Oui, arrière, enfin, c'est plus loin. Mais
votre père en 37, il est en tournée entre Paris, Londres et de nouveau Paris.
Roi Boris III de Bulgarie, accompagné de la reine Giovanna, venant de Rome, arrive à Paris. Le roi et la reine sont accueillis à la gare de Lyon par M. Carré, sous-chef du protocole représentant M. Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères. Les souverains se rendent à la légation de Bulgarie pour un court repos. Puis ils se dirigent vers la gare du Nord, où ils prennent le train pour Londres. Hôte du gouvernement de la République, le roi Boris III de Bulgarie se rend à l'Arc de Triomphe, où il dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le roi Boris et la reine Jeanne de Bulgarie sont reçus à l'exposition d'un monsieur immense et l'abbé. Les souverains terminent leur visite en s'arrêtant longuement au pavillon de Bulgarie situé au Champ de Mars.
Vous souriez, c'est le temps de l'exposition universelle. En réalité, il faut que la France batte sa coulpe aussi. En 1937, elle avait largement abandonné la politique qui avait été la sienne au lendemain de la Grande Guerre et qui était une politique de protection des petits pays d'Europe centrale. La Bulgarie, comme la Roumanie, d'une certaine manière, faisait partie des profits et pertes pour la France, non ?
Oui, il n'y avait plus cette influence, ou tout au moins en apparence. Ça, c'est un fait.
Vous aviez des nurses allemandes ?
On avait, oui, ma sœur une et moi une autre. Oui.
Parce qu'il y a aussi une influence. La Bulgarie est un petit pays qui est obligé de faire avec les voisins. Il y a aussi une influence allemande qui va se manifester. Vous avez 4 ans à l'époque, en 1941, avec l'arrivée des troupes allemandes aux portes du pays.
Oui, c'était le moment de l'adhésion au pacte. Mais mon père a réussi de tenir aussi longtemps que possible pour retarder ce moment délibérément pour exprimer sa volonté de neutralité qui est difficile quand on est un pays qui ne peut pas se la garantir, si vous voulez. Et finalement, il a signé cet accord et la voie était ouverte pour que les troupes allemandes puissent traverser notre territoire, au fond, pour arriver à la mer Noire pour préparer la fameuse opération Barbarossa. Donc, c'était l'invasion de l'Union soviétique.
Alors vous étiez petite, très impressionnée par votre père à qui vous rendez un hommage vibrant. Vous croyez que Hitler a été impressionné par votre père ?
Ça, je ne pourrais pas porter des jugements. Il paraît qu'à un moment donné, Hitler était en quelque sorte fasciné ou épaté par les familles princières et royales. Mais peu à peu, ce sentiment s'est estompé. Il aurait aussi eu des paroles élogieuses à l'époque, donc on parle de 36-37, à l'égard de mon père, disant que c'était quelqu'un de très intelligent, qu'il admirait, mais probablement peu à peu, avec le refus pour les exigences d'Hitler, ça a probablement changé.
Le refus des exigences d'Hitler, alors c'est la volonté de ne pas engager les troupes bulgares dans un combat perdu d'avance à l'époque contre les soviétiques ?
Hitler voulait nos troupes, et comme pays allié, il s'attendait que cela se fasse. Or, mon père savait très bien que notre peuple n'avait pas de motivation contre les Russes, au contraire.
L'oncle Ivan, dites-vous, avait aidé la Bulgarie à se libérer
à la libération des
Ottomans.
Et ça s'était resté. Et puis, il y a une affinité linguistique, religieuse. Et ma foi, si on regarde bien plus tôt, dans l'histoire, il y a aussi des éléments ou des symbioses.
Vous êtes un peu russophile, vous, Majesté.
Moi, je suis pragmatique, et je vois les choses telles qu'elles sont, et voyant l'énorme, pas directement voisin, mais quand même, État qui est dans le voisinage, et vu les circonstances, et surtout le côté de ressources naturelles illimitées que la Russie a, je trouve que c'est tout à fait faux de lui tourner le dos, soi-disant pour avoir l'air plus occidental ou plus pro-Bruxelles.
1943, le moment est tragique. il y a ces exigences d'Hitler en ce qui concerne les troupes, et puis il y a la question juive. Pendant que vous étiez Premier ministre, une plaque a été apposée à côté du Parlement de Sofia, disant que le mouvement de protestation des milieux démocratiques bulgares a obligé le gouvernement de votre père, en 1943, à reporter la déportation de 8500 juifs.
Vous savez, on peut tout interpréter, et tout est relatif. On essayait de diminuer le rôle de mon père en disant que c'était voilà, que le peuple, l'Église, les partis politiques, des personnalités politiques... Tout est vrai, parce que nous, Bulgares, nous ne sommes pas antisémites. Donc, c'est déjà ça. Mais en même temps, ces mêmes cercles qui essayent de dénigrer ou de refuser le rôle positif de mon père l'accusaient de mener ou de diriger un régime plutôt personnel. Alors, une chose avec l'autre ne va pas, parce qu'en fin de compte, si celui qui dirige le régime n'aurait pas voulu, rien de tout ça serait passé. Et ça veut dire que mon père, lui-même aussi, était tout à fait de l'avis qu'il ne fallait pas toucher à nos citoyens de foi juive.
Mais il y avait ce qui se passait dans le vieux royaume, et il y avait ce qui se passait dans les territoires que les Allemands vous avaient concédés en plus.
Ah voilà, mais ça c'est tout autre chose. Là, l'administration supérieure restait allemande. C'était sous le commandement du maréchal List. C'était d'accord qu'il y avait... la police bulgare, une chose et l'autre, mais nous n'avions pas le dernier mot dans ces territoires dits nouveaux, comme vous dites justement.
Août 43, Hitler convoque votre père. Votre père retarde la date de la convocation, d'une journée, deux jours. Mm-hmm. L'entrevue doit être assez compliquée, assez mouvementée. Vous êtes tout petit, vous avez 6 ans, et vous voyez l'avion personnel de Hitler... Oui. Qui ramène votre père. Oui, et vous avez le droit de visiter l'avion.
Nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport et nous avons vu du coup l'avion et ce qui, disons, démentit des mythes ou des rumeurs que mon père était revenu déjà mort de son entretien sur le refuge d'Hitler.
Vous voyez même les aviateurs remplir l'avion de tabac, de fruits,
ça,
de melons.
On avait vu qu'il partait avec des pastèques et des melons et du tabac, parce qu'à cette époque, probablement en Allemagne, les choses devaient déjà être plutôt difficiles.
Et vous continuez vos activités. À l'époque, ce sont des jeux insouciants. Et vous apprenez peu de jours après la mort de votre père. Les interprétations sur la mort, vous en parlez longuement dans votre livre, divergent. Un coup de stress, peut-être, ou autre chose.
À l'église orthodoxe de Paris, la mémoire du roi Boris, l'unificateur de la Bulgarie, est célébré par un service religieux. À cette cérémonie assistent M. Chichmarov, consul de Bulgarie, le ministre Schleyer et M. l'ambassadeur de Brune. Le roi Boris, qui régnait depuis un quart de siècle, laisse un royaume agrandi sans que son pays ait eu à connaître les horreurs de la guerre. À Sofia, manifestation émouvante. La garnison de la capitale bulgare prête serment à son jeune souverain, le roi Siméon II. Puis, selon la tradition, chaque officier pose ses lèvres sur la frange de l'étendard royal et, en signe d'obéissance, passe sous les plis du drapeau.
Actualité collaborationniste française au cinéma. Nous sommes en septembre 1943. C'est pas facile d'être un roi enfant. Vous avez 6 ans, vous êtes habillé avec un col marin et vous recevez les dignitaires.
Effectivement, il y avait le conseil de régence, naturellement, qui gérait et s'occupait, mais tout de même, j'étais le facteur... symbolique.
Alors, vous dites, depuis la mort de mon père, je ne veux plus entendre parler de défunt. Je ne sais plus pleurer, je ne peux plus pleurer. En même temps, vous êtes très ému en entendant simplement le nom de votre père.
Oui, c'est normal, mais je veux dire que de pleurer, on peut pleurer aussi intérieurement sans se rendre en victime ou un spectacle.
Dès 1944, les Soviétiques l'emportent, les Soviétiques amènent au pouvoir les communistes en Bulgarie. Et en fait, avec votre mère, vous êtes reclus. Et les régents, votre oncle, auquel vous faisiez confiance, sont exécutés. Vous apprenez ça janvier 1945.
On les a déportés d'abord en Union soviétique pour, en quelque sorte, les débriefer ou interroger. Et puis, ils ont été ramenés à la fin du mois de janvier pour être jugés, entre guillemets, par le tribunal populaire... et exécuté la nuit du 1er février 1945.
Qu'est-ce que ça fait un enfant qui a maintenant 7 ans, 8 ans, qui, s'il n'était pas un enfant, passerait aussi sur le mur et serait fusillé?
Il se peut, mais pour nous, c'était affreux de voir que tout le monde, en fait, toutes les personnes qui étaient autour de nous, du jour au lendemain, avaient disparu. Et les autorités avaient même interdit à ma mère d'aller à la prison pour dire au revoir à toutes ces personnes.
Vous êtes prisonnier, vous, parce que les communistes disent à votre mère, « Majesté, vous pouvez partir, mais on garde l'enfant. »
En effet, ça, c'est, on est resté encore jusqu'en septembre 1946.
Et là, le départ forcé après un référendum où à 99% les Bulgares se prononcent pour la démocratie populaire.
95.
Oui, vous voyez, il y a plus de liberté que vous le dites, Majesté. Vous êtes dans un train et vous partez pour...
Istanbul. C'était un moment naturellement bouleversant, même si j'avais que 9 ans et ma sœur qui était aînée, tous les deux, on avait l'impression que... Bon, c'était l'adieu pour toujours.
Mais quel âge avez-vous, au fond? Vous vous interrogez sur votre âge, parce que vous êtes devenu majeur à 6 ans.
J'ajoute 12 ans à mon âge de calendrier, puisque je suis devenu majeur, comme vous dites. Et normalement, c'est à 18 ans qu'un garçon est considéré majeur.
Donc vous avez près de 90 ans maintenant.
Voilà.
Oui. Être roi enfant, c'est pas facile, dites-vous, dans un destin singulier. Être roi en exil, ce n'est pas très facile non plus. Encore que va vous aider la vision d'un film tourné par un autre exilé, Charlie Chaplin, un roi à New York.
Messieurs, à cette photo maintenant. Vous savez que Sa Majesté le roi Chadov vient à peine d'échapper à une révolution. Et j'espère que vous voudrez bien l'interviewer aussi brièvement que possible. Posez vos questions.
On raconte que vous avez filé avec le magot.
Votre Majesté, si je puis vous interrompre, l'officier de l'immigration attend. Je vous demande pardon.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et notre témoin, Siméon II de Bulgarie, qui fut roi de 43 à 46, se retrouva en exil. Vous riez à l'évocation de ce film. Pourtant, ça devrait vous irriter, le fait qu'on évoque systématiquement, quand on parle des rois en exil, leur magot.
Mais vous savez, ce film m'a enseigné surtout d'éviter précisément cette satire ou les situations grotesques ou plutôt pathétiques dans lesquelles le roi se trouvait à New York, et ça m'a beaucoup marqué parce que je crois que j'ai vraiment pris soin de ne pas entrer dans cette dynamique et d'être victime de situations aussi pathétiques.
Ou vous auriez dû faire de la publicité dans des spots télé comme le personnage interprété par Charlot. Mais en fait, vous n'avez pas de ressources quand vous arrivez en Égypte, chez Farouk à Alexandrie, où vous êtes de 46 à 51.
Non, c'est grâce à mes grands-parents d'Italie que nous avons pu vivre, que me payer l'école et le loyer de la maison.
Enfin, l'école, attendez, le Victoria College, c'est pas n'importe quoi. Mais voilà. Parce que vous avez des camarades de classe. Il y avait le futur roi Hussein de Jordanie.
Oui.
Et alors, vous racontez quelque chose d'étonnant sur les enfants des émirs de la péninsule arabique, ceux qui maintenant possèdent les grands palaces de Paris. Et à l'époque,
certains ne parlaient pas encore l'anglais. Et puis, on avait dit que ceux qui étaient là préféraient dormir sur des couvertures par terre, parce qu'ils avaient l'habitude de ça.
C'était un temps heureux où les émirs dormaient par terre et où Alexandrie était cosmopolite. Vous parliez tous les idiomes dans la cour de récréation, racontez-vous.
Oui, soi-disant, nous devions être... Enfin, parler que l'anglais, comme toujours. On parlait tout sauf l'anglais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre quelques autres langues.
Il paraît que votre livre, vous l'avez écrit en espéranto, avec oui, Sébastien c'est ce Courtois.
C'est-à-dire... ce que j'appelle espéranto, parce que j'ai des notes en plusieurs langues. Et donc, il a fallu, voilà, avec l'aide de Sébastien de Courtois, mettre ça un dénominateur commun que finalement, moi-même ayant été au lycée français, j'ai préféré qu'on le rédige en français.
Alors, le lycée français, ça, c'est Madrid à partir de oui. 1951. C'est sinistre, le Madrid de Franco.
Non, pas vraiment. C'était simplement un pays qui revenait de loin après la guerre civile. Il n'y avait pas encore l'aide américaine comme les autres pays européens.
Oui, enfin, remettez-vous dans la peau de l'enfant que vous étiez. Madrid n'est pas gai comme était Alexandrie. Et alors, le lycée français...
Mais le lycée français était énorme et très bien vu, quoique considéré un peu laïque, un peu libéral, entre guillemets, suspect du point de vue politique. Mais enfin, ça, c'était simplement une impression.
Donc, ça vous a appris le libéralisme, l'enseignement de la République
c'est
française.
Les professeurs qu'on avait et les propos qu'ils tenaient, ça a sûrement contribué à ma formation.
C'est par exemple, vous donnez un fait précis, votre professeur d'histoire. Vous étiez un peu dissipé.
Oui, ah bon, mais lui, il a dit ça gentiment. Mais on avait des professeurs de philosophie et de physique qui étaient des personnes vraiment fascinantes et qui nous ont beaucoup... enseigné.
West Point, après, où vous êtes cadet aux États-Unis.
Valley Forge. Ah. Valley Forge. West Point, c'est que pour les Américains, ou alors si le président désigne un étranger. Ah. Mais sinon, c'est l'Académie de Valley Forge en Pennsylvanie.
C'est un peu la même expérience. Vous
ah
perdez
oui, non,
vos
c'est
titres.
Une des six auxiliaires des
plus personne ne vous désigne sous votre titre, Majesté, là-bas.
Non, non,
non là, plus au lycée français.
Comme le cadet Rilski, numéro 6000. 33.
Et pendant ce temps, le président Jivkov, le successeur de Dimitrov, à la tête de la Bulgarie, qui va être pendant 33 ans le dictateur de la Bulgarie, reçoit tous les honneurs à Paris, où il vient parfois en visite officielle. Ici, discours de bienvenue dans les années 60 du Premier ministre Georges Pompidou, puis du président de cette maison de l'ORTF de l'époque, Jacques-Bernard Dupont.
La visite officielle que vous nous rendez aujourd'hui, à l'invitation du gouvernement français, témoigne du désir commun à nos deux gouvernements de resserrer les liens que la France et la Bulgarie ont renoués entre elles dans tous les domaines et à leur avantage réciproque.
Et c'était ensuite la réponse de M. Jivkov.
Господин председател,
je voudrais vous assurer, Monsieur le Premier ministre, que le peuple bulgare est profondément respectueux du génie scientifique et technique du peuple français qui a apporté une contribution inestimable au progrès de l'humanité.
Monsieur le Président, Madame.
Господин министр-председател, госпожо.
Votre visite à la maison de l'ORTF est pour nous un grand honneur. Nous vous serions très reconnaissants, Monsieur le Président. Madame, si vous vouliez bien signer notre livre d'or.
Vous avez reconnu la voix de Jivkov ?
Oui, effectivement.
Même si vous ne l'avez jamais rencontré.
Non, mais la voix, on la connaît de tous les discours.
Vous me disiez, je suis russophile, on ne peut pas négliger la Russie. Lui pensait carrément que la Bulgarie pourrait devenir une république supplémentaire de l'URSS.
Mais il l'a prononcé à un moment donné, et il faut aussi mettre tout ça dans le contexte. Ça avait créé toutes sortes de réactions. Et puis, on sait très bien que c'est une chose qui était irréalisable du fait qu'entre la Russie et la Bulgarie, il y a la Roumanie, la Moldavie. Et donc, mais
un enfin, massif de latinité qui vous protège.
Peut-être, oui, ou quelque chose de différent. Mais une fois de plus, je trouve qu'il ne faut pas généraliser ou encore sortir les choses du contexte de l'époque.
Donc vous le comprenez, à cause de la dépendance qui était la sienne face à la tutelle
Peut-être
soviétique.
Peut-être qu'ils croyaient plaire plus de cette façon, mais les Russes n'étaient pas dupes non plus. Ils surveillaient tout le monde qui dépendait d'eux.
Ils surveillaient tout le monde. Alors vous-même, quand vous êtes devenu Premier ministre, Siméon de Bulgarie, vous avez consulté les dossiers vous concernant et vous avez constaté que vous étiez filé à chaque instant ?
Oui, peut-être chaque instant pas, mais de très près, pendant toutes ces années, je trouve ça, sans vouloir paraître cynique, un effort et des dépenses mal placées, parce que je n'étais quand même pas un élément subversif. Mais voilà que, comme tant d'autres de mes compatriotes qui avaient des dossiers, mais ce qui m'a amusé, c'est de rencontrer des gens qui travaillaient et qui travaillent encore dans nos services, mais qui, à l'époque, comme tout jeune, avait aussi m'avait suivi. Mais ça, c'est encore la réalité et l'évolution dans les choses. Et puis, dans une opinion qui est tout à fait personnelle, mais dans les services, il faut la continuité. On ne peut pas rompre d'un gouvernement à l'autre, parce qu'alors tout s'interrompt.
Nous sommes à la veille de l'anniversaire de la chute du mur et de la transformation consécutive de la Bulgarie. Vous avez cherché plus tard plutôt une conciliation, je sais que vous n'avez pas le mot compromis, un dialogue, une négociation avec les communistes, comprenant aussi les difficultés qui avaient été celles de ceux qui devaient collaborer avec le régime.
J'ai essayé de me mettre à la place de certaines personnes pour comprendre et pas juger. Et ensuite, il fallait regarder bien en avant plutôt qu'en arrière, pour tâcher de moderniser ce pays, de l'unir, de tâcher d'effacer les blessures d'une époque très éprouvante. Et Dieu sait que moi-même, j'en étais victime, mais ce n'est pas une raison pour devenir revanchard.
Mais votre oncle Kirill a été fusillé et mis dans une fosse commune et on a construit un immeuble dessus. Les membres de votre entourage ont été persécutés après que vous les avez quittés. Vous dites qu'il y a eu 100 000 ou 120 000 victimes dans les premières années. Donc vous ne souhaitez pas un procès de Nuremberg du communisme.
Mais c'est pas, moi, je ne pouvais pas le faire, ni l'initier. Ça aurait l'air de nouveau de vouloir régler des comptes. Et je crois que ça ne mènerait nulle part. Dieu sait qu'il y a des Bulgares qui ont souffert, et souvent certains ne m'ont pas compris dans ce rôle. Mais à mon avis, c'était la seule façon de tâcher d'avancer.
Les dissidents qui ont joué un rôle en Bulgarie dans les tout derniers mois que François Mitterrand, lors de sa visite en janvier 89, a bien voulu recevoir, étaient beaucoup plus radicaux que vous sur le communisme.
Mais où est le résultat ? Est-ce qu'ils ont... Enfin, ils sont arrivés à quelque chose d'autre ?
Comment la chute a-t-elle été si brutale, en si peu de jours, en même temps que la chute du mur ?
C'était plutôt un... sans dire de grands mots, mais enfin un complot, un petit coup d'État de palais, enfin une chose intérieure, parce que c'était le lendemain de la chute du mur que le comité central a décidé d'évincer M. Jivkov. Tout s'est enchaîné par la suite.
Nous parlerons dans notre prochaine émission avec vous, Siméon, de Bulgarie, de vos contacts avec Jivkov, s'il y en a eu à votre retour en 1996. Oui, parce qu'en France républicaine, on n'a pas si souvent l'occasion de trouver un roi qui parle français de surcroît parfaitement. Ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Donc on vous retient pour lundi prochain. Ce sera peu après l'anniversaire de la chute du mur. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Florent Layani, dans l'équipe Frédéric Martin, Franck Olivard et Ilinka Negulesco.